en tant qu'entrepreneur français, tu ne pourras pas être un vendeur sur Amazon si tu ne peux justifier d'une assurance responsabilité civile aux USA.
Bienvenue sur Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ichbia.co. Ça s'écrit ichbiah.co.
Alors, quand on parle des États-Unis, forcément, de par la taille du marché, on pense à de grosses opportunités, mais qui dit opportunité dit aussi potentiellement risque. Pour nous éclairer sur ces risques et éventuellement pour savoir comment s'en prévenir, je reçois aujourd'hui un expert de l'assurance, Laurent Chevreau. Laurent, bonjour.
Bonjour Romain.
Laurent, ça fait longtemps qu'on doit faire cette émission ensemble, je suis ravi qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et puis peut-être nous dire ce que tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivé aux États-Unis?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Laurent Chevreau. Je suis basé physiquement à Chicago, expatrié depuis plus de 20 ans maintenant, par amour. En mariant une Américaine, j'ai aussi pris mon billet d'avion. Mais je suis un courtier d'assurance depuis 30 ans. Donc, j'étais en région parisienne auparavant. Courtier d'assurance ici au sein d'un cabinet qui s'appelle Alliant, qui est considéré le 10e plus gros cabinet des États-Unis. Pour vous donner un peu une perspective, c'est 4000 employés, plus d'1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, près de 20 milliards de dollars de primes d'assurance placées dans le marché. Mon activité au jour le jour est d'aider les entreprises à gérer leurs risques et éventuellement à acheter de l'assurance.
D'accord, super. Alors, en introduction, je disais qu'il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis, mais peut-être aussi des risques. Alors, est-ce que parfois on voit des choses comme des settlements avec des chiffres gigantesques? Est-ce que d'une manière générale, les risques sont vraiment plus importants aux États-Unis ou est-ce que c'est un mythe?
Les risques en termes de classe de risque sont les mêmes qu'en France ou ailleurs. Quand tu parles de settlement, tu probablement as en tête les risques de responsabilité civile, où effectivement la grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est la loi. Ici, nous sommes sous la jurisprudence, la common law, alors qu'en France, c'est le code Napoléon, un code écrit. Donc déjà, il y a une opportunité pour nos amis avocats à détecter des cas et à amener des cas devant la cour plus facilement, en règle générale.
Et ça, on peut donc se couvrir de ce genre de risque avec une assurance?
Oui, ce sont tout le panel des assurances responsabilité civile, liability en anglais.
D'accord. Alors, est-ce que justement tu peux nous éclairer sur, parce que tu parlais de liability et de responsabilité civile, c'est l'une des familles de risques que l'on peut rencontrer quand on fait du business aux États-Unis ou avec les États-Unis. Quelles sont les grandes familles de risques?
Les grandes familles de risques sont classifiées généralement en trois. Premièrement, ce sont les assurances de dommages aux biens. On assure les choses que l'on possède. Ça commence avec toi et moi, avec nos canapés, nos télévisions chez nous. Bien évidemment, en matière d'entreprise, ce sont les machines, les équipements de bureau, les équipements de l'entreprise et les pertes d'exploitation liées à la perte de l'usage de ces biens. Pour ça, il n'y a pas vraiment de différence entre les États-Unis et la France, si ce n'est la géographie. Bien évidemment, aux États-Unis, la géographie impose des conditions particulières pour les tremblements de terre du côté ouest, le vent, donc les ouragans et les tornades du côté est, et les tornades également en plaine. À part ça, c'est vraiment la même logique. Donc ça, c'est la première grande famille. On assure ses biens et les pertes d'exploitation liées à la perte de l'usage de ses biens. La deuxième famille, ce sont les personnes. Une des particularités américaines, ce sont les accidents du travail. En France, on a la caisse primaire d'assurance maladie, donc ça passe dans un poste un petit peu différent. C'est donc géré plus du côté ressources humaines. Ici, c'est une classe d'assurance à plein, puisqu'en fait, il n'y a pas d'organisme central. On achète l'assurance accident du travail à travers un courtier comme moi. Et donc ça, c'est une vraie classe de métier pour un assureur comme moi, puisqu'on peut imaginer quand on a 10, 50, 100, 500 employés, voire plus, bah bien évidemment, la gestion de ces risques des accidents du travail, des maladies professionnelles, est une partie de mon métier aux États-Unis que je n'avais pas du tout en France. Et enfin, la troisième classe, c'est celle qu'on a évoquée brièvement, c'est les responsabilités civiles. Ça commence avec le simple fait d'avoir deux bras, deux jambes et de pouvoir blesser quelqu'un, dommage corporel, ou casser quelque chose qui ne nous appartient pas, dommage matériel. Mais bien sûr, ça s'étend à la même notion vis-à-vis d'un produit, et plus largement encore, les responsabilités civiles des dirigeants d'entreprise par rapport aux engagements financiers qu'ils prennent vis-à-vis d'investisseurs, vis-à-vis de collectivités publiques ou autres tierces parties. Donc voilà les trois classes. Dommage aux biens, dommage aux personnes, dommage des responsabilités civiles.
D'accord. Dans quelle catégorie tu rangerais ce type de scénario où tu as un échange de données entre donc deux sociétés et peut-être des données confidentielles et puis ces données, pour une raison X ou Y, se retrouvent en fait perdues ou se retrouvent dans le domaine public?
Alors c'est une question qui est vraiment au jour le jour en ce moment, malheureusement. On appelle ça un petit peu de manière très fourre-tout le cyber liability. Et en fait, c'est une police, des polices d'assurance qui ont deux classes. Parce que ce que tu décris, c'est à la fois la perte de biens intangibles, cette fois, des informations personnelles, avec maintenant dans les 50 États américains des lois très précises qui obligent les entrepreneurs à certaines actions quand ils vont détecter que malheureusement ils ont pu perdre des informations personnelles. Donc il faut gérer ça, il faut les reconstituer. Donc tout ça, c'est un petit peu la même approche que si on perdait une machine, par exemple. Mais de l'autre côté, il y a aussi le volet responsabilité civile. Quelle est la perte pour autrui, malheureusement, de la pénétration de ton propre système? Encore une fois, ça commence avec des employés, la perte de leur numéro de sécurité sociale. Ça peut être la perte par rapport à un client, des cartes de crédit. Bien sûr, dans le domaine médical, qui est très sous attaque en ce moment, c'est tous les dossiers médicaux qui sont très recherchés par les hackers.
Et donc ça, c'est une quatrième famille de risques sur lequel tu conseilles de te couvrir.
Oui, alors encore une fois, pour moi, ce n'est pas une quatrième. C'est vraiment à la fois, ça touche la première, les dommages aux biens, mais cette fois-ci intangibles, et la troisième, les responsabilités civiles que tu encours vis-à-vis de la perte de ces données.
D'accord, c'est très clair. Alors, comment on se couvre? J'imagine donc on appelle quelqu'un comme toi, mais en termes de géographie, si je travaille aux États-Unis, par définition, la police, elle couvre tout le territoire? Ou est-ce que si mon business de consulting, il est dans l'Illinois, bah, je n'ai besoin de me couvrir que dans l'Illinois?
Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est une question à généraliser et à comparer avec la France, par exemple. C'est le but un peu de tes podcasts. La définition étendue géographique des garanties, ça, ce sont les termes qu'on trouve en France dans les conditions générales de toute police d'assurance. Étendue géographique des garanties. Aux États-Unis, la définition est USA, les 50 États, et Canada, et tous les territoires, tels que Puerto Rico ou Guam. Et c'est tout. Alors qu'en France, la définition de toutes les polices d'assurance étendues géographiques et garanties, c'est la France, bien sûr, et le monde entier, à l'exception de deux pays, USA et Canada. Donc ça, c'est vraiment un point central pour les entrepreneurs français qui vont nous écouter. Votre police d'assurance vous couvre automatiquement en France, en Chine, en Australie, en Afrique du Sud ou en Russie, si demain vous voulez faire du business là-bas. Et du business, ça veut dire faire une facture, vendre un produit ou un service. Par contre, elle exclut tous vos volants d'affaires USA-Canada automatiquement. Et donc, bien évidemment, je dis souvent à nos amis de Business France ou des chambres de commerce ou autres intermédiaires pour le commerce international en France, si un entrepreneur français vient s'asseoir en face de vous pour vous dire « je vais faire du business en Chine », certainement vous devez lui parler d'un comptable, d'un avocat et d'un banquier qui a les aptitudes à faire du business en Chine, mais pas nécessairement d'un assureur puisqu'ils sont automatiquement assurés. Par contre, Si ce même entrepreneur vous dit qu'il va faire du business au Canada et aux USA, dans la liste d'intermédiaires, vous devez obligatoirement rajouter « il doit parler avec son agent, il doit parler avec son courtier » parce que ces deux pays sont automatiquement exclus de la couverture. Donc ça, c'est vraiment un point important.
D'accord. Donc, pour récapituler, si je suis une société qui ne fait que de l'export de produits, disons, des machines ou des jouets vers les États-Unis, ma couverture française, qui donc, en théorie, couvre le monde, ne couvre pas le risque, par exemple, de responsabilité civile dont on parlait tout à l'heure, pour les États-Unis et pour le Canada.
Oui, c'est aussi simple que ça.
D'accord. Pourquoi ?
Alors, il nous faudrait sans doute une autre émission. J'ai parlé tout à l'heure de la loi, et donc ça c'est important, la common law à l'inverse de la loi écrite. Mais là, bien évidemment, tu me dirais, bah, dans ce cas-là, pourquoi les polices d'assurance d'un Anglais excluent aussi USA-Canada, et ça serait un bon point logique. Donc, majoritairement, c'est par rapport à la considération du sinistre, de la date du sinistre pour les assureurs. Et encore une fois, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais partout dans le monde, on utilise la date de la déclaration. Même si le sinistre a eu lieu il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, l'assureur qui va être considéré, c'est celui qui est aujourd'hui, lorsque l'entrepreneur apprend la mauvaise nouvelle, qu'il a créé un dommage corporel ou qu'il a créé un dommage matériel à autrui. Encore une fois, même si le sinistre a lieu il y a 3-4 ans. Ce qui fait que les assureurs en France et dans le monde n'ont pas à garder les provisions. Si tu es assuré avec AXA, pour en nommer un, en 2020, et tu as basculé vers Allianz en 2021, AXA n'a plus besoin de garder de provisions sur ton risque. Pour les années futures, quelqu'un qui viendrait déclarer un sinistre rétrospectivement. C'est tout l'inverse aux États-Unis et au Canada. La date importante pour nous en responsabilité civile, c'est la date du sinistre lui-même. Et aux États-Unis, dans la plupart des États, on a 10 ans pour pouvoir aller déposer une plainte. Ça veut dire, si je reprends l'exemple d'AXA et d'Allianz, si tu es assuré aux États-Unis avec AXA en 2020 et que tu bascules sur Allianz, AXA va devoir garder des provisions par rapport à ton risque pendant au moins 10 ans. Parce qu'ils ne peuvent pas prédire que tu ne vas pas être attaqué rétrospectivement avec une date d'un sinistre qui aurait lieu 10 ans avant. Donc ça, c'est la vraie raison. Et c'est pourquoi c'est bien différent. Bien évidemment, on peut étendre également à l'environnement social et notamment à l'assurance médicale. Il y a une tendance beaucoup plus importante aux États-Unis à attaquer son prochain parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés pour leurs frais médicaux. Alors qu'en France, on a quand même le garde-fou de la sécurité sociale pour la plus grande masse de personnes. C'est une autre raison. Mais la raison principale, c'est la technicité de cette date de sinistre.
D'accord. C'est passionnant. Donc, c'est des risques un peu plus importants de se faire attaquer, mais surtout des façons de procéder, de comptabiliser, et puis peut-être des process internes du coup qui sont très différents, qui fait qu'un assureur en France, ou d'ailleurs en dehors des États-Unis, donc a du mal à gérer le risque et à le provisionner quand il s'agit des États-Unis et du Canada. Alors du coup, ça m'amène à la question suivante. Donc si je suis dans mon exemple un exportateur, disons, de jouets en France, donc je suis uniquement en France, je n'ai pas de filiale aux USA, si je ne peux pas m'assurer de France pour mon risque US, qu'est-ce que je peux faire ? Faut que je crée une filiale ?
Alors, il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs pour lesquels ils n'avaient sans doute pas pensé que la création d'une filiale serait la solution. Encore une fois, je ne veux pas dire nécessairement, ça va pas être le propos, que l'assurance, on crée une filiale seulement pour l'assurance, pour résoudre un problème d'assurance, mais certainement, c'est une des motivations. Donc, revenons à ton élément de présentation, un fabricant d'un produit quelconque qui vient à vendre aux États-Unis et qui dit qu'il va le faire depuis la France, il doit aller voir son assureur et il doit lui dire « je vais vendre des produits aux États-Unis, au Canada ». Et si son assureur est bon en face de lui, il va lui dire « ah, on a un problème ». Sont deux pays exclus de la couverture. Et là, malheureusement, en France, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a deux réseaux différents de distribution d'assurance. Un, ce sont des agents. Un agent, c'est quelqu'un qui a un pas de porte et qui représente une compagnie d'assurance. Donc, pour un peu faire un cliché, c'est quelqu'un qui a un magasin d'assurance avec des autocollants partout de la marque en question. Encore une fois, je les ai cités tout à l'heure, je vais les reprendre. C'est AXA ou c'est Allianz. Ils vous donnent un porte-clé AXA, un gratte pare-brise Allianz et c'est la marque qu'ils vendent. Et malheureusement, à travers ce réseau, les compagnies françaises n'aiment pas modifier la clause étendue géographique des garanties. Et c'est très difficile parfois pour un entrepreneur français assuré auprès d'un agent, encore une fois, de pouvoir étendre et modifier ses couvertures. Et malheureusement, surtout un point de vue local dans nos provinces françaises, ces communautés, l'agent, sont très liés avec les entrepreneurs locaux. Donc ça crée parfois des petits conflits entre amis. Mais la réalité, c'est que si vous devez, si vous êtes sérieux en tant qu'entrepreneur, à venir vous implanter aux États-Unis et à venir vendre aux États-Unis, vous devez absolument modifier votre clause en France. Et les courtiers, qui eux ne représentent pas une seule compagnie, mais plusieurs, sont plus à même de le faire. Mais encore une fois, parfois, la difficulté reste parce que vous vendez un produit compliqué, considéré dangereux. Tu as parlé des enfants, par exemple. Tous les produits vendus aux enfants sont considérés un petit peu compliqués. Et donc, la création d'une filiale va résoudre certains problèmes. Et encore une fois, on ne crée pas une filiale pour l'assurance, mais le problème de l'assurance peut se résoudre par la création d'une filiale.
Non, c'est très clair. C'est très clair. Alors, je vais prendre un cas encore plus précis qui peut-être donne la même solution, mais je suis une société française. Je vends mes produits de France aux États-Unis par un site d'e-commerce, disons Amazon USA. Pour simplifier, c'est assez facile, tout le monde connaît. Il y a un problème avec le produit. La responsabilité, elle est chez Amazon ou elle est chez ma boîte française qui n'est pas assurée?
Alors, c'est une bonne question, une question qui revient quasiment de manière hebdomadaire de mon côté. En tant qu'entrepreneur français, tu ne pourras pas être un vendeur sur Amazon si tu ne peux justifier d'une assurance responsabilité civile. J'invite les entrepreneurs français à aller sur le site d'Amazon et de dérouler jusqu'en bas dans le chapitre vendeur, comment s'enregistrer en tant que vendeur. Et à un moment donné, ils vont être en face d'une page qui va parler d'assurance. Et Amazon va vous dire, vous devez avoir $1 million d'assurance si vous voulez vendre sur mon site. Et pour tous les produits, sauf, et là apparaît une liste qui va de l'équipement d'enfant à la tondeuse à gazon, où là, Amazon vous dit, mais pour ces produits que je liste en dessous, et il y a à peu près 100 classes différentes, vous devez avoir 2 millions ou 3 millions ou ainsi de suite. Donc, pour répondre maintenant directement à ta question, Amazon est un distributeur à zéro responsabilité civile sur les produits qui sont vendus sur leur plateforme. Et c'est très clairement exprimé, d'une part, par des clauses légales et qui sont ensuite doublées d'obligations d'assurance. C'est un peu ça la logique. C'est un, aux États-Unis, on entre dans un contrat de distribution qui, en gros, dit aux fabricants, tu es responsable de tout et tu vas non seulement te défendre, mais me défendre. Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. C'est l'impact direct de la loi. Et ensuite, le deuxième pas, c'est, puisque je te donne la responsabilité de te défendre, de me défendre, je vais t'imposer d'aller acheter de l'assurance. C'est ce deuxième pas de danse un petit peu qui est très commun ici aux États-Unis. Un, légalement, on t'oblige à te défendre, me défendre et nous indemniser tous. Et ensuite, pour être sûr que tu aies de l'argent pour faire ça, on te dit, va acheter de l'assurance.
D'accord. Et donc, je vais prendre un dernier cas. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais pour être sûr d'avoir couvert, pas tous les cas possibles, mais beaucoup de cas pour nos amis entrepreneurs futurs exportateurs. Je suis toujours une société de jouets. J'ai un site d'e-commerce en France, domicilié en France, hébergé en France, etc., etc. Et donc, j'ai une commande qui vient des US. On est toujours dans le même cas. Ma responsabilité civile, s'il se passe quelque chose, même si la commande, elle vient totalement en France avec une boîte française, etc., etc. Et c'est même pas moi qui l'envoie, c'est DHL. Donc, quelque part, je peux dire, ben non, moi, je l'ai juste donné à DHL et c'est vous, client, qui vous êtes débrouillé pour vous le faire livrer. Dans ce cas encore, en fait, je suis potentiellement en risque, n'est-ce pas?
Oui, alors peut-être un peu moins. Et encore une fois, ce sont les clauses de vente que cet entrepreneur indiquerait sur son site internet, et notamment l'endroit en termes de dispute, où se disputeraient les problèmes de dommages corporels et de dommages matériels notamment. Donc c'est peut-être un petit peu plus protecteur. Il n'empêche que rien n'empêche un parent comme moi qui vit aux États-Unis, qui aurait mon fils blessé par un de vos produits, de vous attaquer dans une cour américaine. Alors après, bien évidemment, si c'est, on va prendre l'exemple d'une dent cassée et que ça coûte $5,000, ça serait difficile pour moi de basculer mon attaque légale vers Paris. Ça, on peut imaginer les frais. Mais si par contre j'ai perdu mon enfant, de toute évidence, on peut imaginer que j'ai un peu plus de désir et de volonté d'aller vraiment chercher l'époux dans la tête à quelqu'un, même à Paris. Et là, la réponse de l'assureur français pour ce fabricant français va être à nouveau basée sur les conditions générales de sa police. Avez-vous ou non réintégré USA Canada, puisque le dommage corporel aura eu lieu aux USA?
D'accord, très clair. Donc, en résumé, pour les exportateurs français vers les US qui n'ont pas de filiale, si je comprends bien, action numéro un, négocier avec votre agent, et si votre agent ne peut rien faire, bah, passer chez un courtier, mais il vous faut une protection américaine. Option 2, si ce n'est pas possible, il faut ouvrir une filiale pour être couvert et puis te passer un coup de fil ou à un de tes pairs pour être couvert sur le marché américain. Et option 3, si aucune des deux premières options n'est possible, il faut probablement refuser les commandes qui viennent des États-Unis, sauf si on aime le goût du risque.
Tu as bien résumé, très clairement. C'est aussi simple que ça. C'est des conversations que j'ai tous les jours. Et pour répéter différemment, une entreprise française qui n'a aucune domiciliation légale aux États-Unis ne peut pas acheter d'assurance aux États-Unis. Donc, à partir du moment où vous voulez avoir un volant d'affaires vers les États-Unis et le Canada, vous devez négocier vos polices d'assurance en France. Deuxième aspect des choses, créer une filiale, parfois c'est la solution. Et là aussi, j'enlève ma casquette d'assureur, mais je mets celle de gestion des risques. C'est aussi l'établissement d'un fusible, on va dire. C'est souvent l'image que j'utilise. Le goodwill de ces entreprises françaises, la propriété intellectuelle et les biens, que ce soit les machines ou les usines, sont en France. Donc c'est ça qu'il faut protéger. Et créer une filiale et la doter d'assurance aux États-Unis, c'est créer aussi un fusible pour la gestion des risques. Bien évidemment, ces filiales, dans la majeure partie des cas, si elles ne sont que commerciales, n'auront elles-mêmes aucun bien. Donc la police d'assurance va représenter vraiment la garantie unique, et c'est bien comme ça. Donc ça a aussi un avantage de créer une filiale en termes de gestion des risques. Mais encore une fois, j'ai conscience que ça pose d'autres problèmes que tu as évoqués avec quelques-uns de tes interlocuteurs au préalable, et le fera, j'en suis sûr encore.
Très clair. C'est une bonne transition parce que donc, au-delà de l'aspect fonctionnel de prévenir les entrepreneurs français sur les risques et l'importance d'être couvert aux États-Unis, donc tout ce dont on a parlé, on se connaît un petit peu et donc chaque fois que je t'entendais parler, j'ai toujours été très impressionné parce que j'ai l'impression que, sans vouloir te faire de la pub, hein, que quand tu parles de ton métier, c'est pas juste de l'assurance, c'est que tu te mets vraiment à la place de ton client, tu anticipes des risques pour eux, c'est vraiment un métier de conseil. Est-ce que tu peux un petit peu en parler de la façon dont tu procèdes et justement du fait que tu es peut-être plus un gestionnaire de risques ou un conseil en gestion des risques que juste un assureur sans être péjoratif dans le juste?
Oui, certains de mes confrères vont pas être très contents avec ton mot juste, mais effectivement, c'est inconcevable d'être un vendeur de police d'assurance. Et dans ce cas-là, on va acheter une autre classe de gens dans la bassine. C'est comme un vendeur de voiture. Il suffit pas que Romain il soit bien assis dans le fauteuil. Il faut que la voiture elle-même elle réponde à ses besoins. Et dans mon métier, bien évidemment, la meilleure police d'assurance, c'est celle que tu utiliseras jamais. Donc c'est vraiment comment ne pas avoir de sinistre qui m'intéresse. Et bien évidemment, ça, c'est à adapter à chaque cas. Pour moi, une entreprise, c'est une machine à faire du fric. Je vais être un petit peu brutal. Donc, c'est des matières premières ou des cerveaux en entrée, un mécanisme de transformation au milieu et à la sortie, un produit ou un service avec un profit. Et mon métier, c'est de garantir que cette pompe à fric, elle continue. Et malheureusement, il y a des aléas de la vie, climat ou des actions d'autres gens autour de nous qui font que cet équilibre est en danger. Mais avoir prévu au maximum quels sont ces aléas et quels sont ces dangers, ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi que d'aller acheter un pansement pour éviter que ça saigne à la fin. Je pense souvent l'image, encore une fois, comme je suis un parent américain, je vais utiliser le football américain. En tant que parent, quand on envoie son gamin à l'entraînement, on va pas acheter des pansements, on va acheter un casque. Le but, c'est qu'il se casse pas la tête, pas de comprendre comment on va arrêter que ça saigne à la fin.
Très clair. Et donc, du coup, par définition, tu as donc une bonne compréhension des business de tes clients, hein, de manière à mieux les aider. Et donc, ça m'amène au prochain sujet. Donc, des clients, des prospects, tu en vois beaucoup, donc des gens qui sont la cible de ce podcast, des exportateurs, des start-upers, des futurs hackers d'entreprise, des gens qui veulent s'implanter. Qu'est-ce que les sociétés françaises qui veulent donc aller conquérir le marché US ont en commun, en bien et peut-être dans les erreurs qu'elles font?
Alors, ça, c'est une question intéressante. Et pour remettre ça un petit peu dans le cadre, ça fait 20 ans que je suis expatrié et relativement impliqué avec le milieu économique français. Pour illustrer, je suis un conseiller du commerce extérieur de la France. Je participais avec les chambres de commerce locales à tout un tas de missions.
Alors, qu'est-ce que c'est un conseil du commerce extérieur de la France? Peut-être que tu peux l'expliquer pour nos auditeurs.
Oui, donc c'est une organisation qui existe depuis plus de 100 ans, qui en gros a été établi à la fin du XVIIIe siècle pour faire plus ou moins de la veille économique à l'époque. La France était, comme on le sait tous, un pays colonisateur, tout au moins établi dans les colonies. Donc c'était vraiment un moyen pour de l'époque pour ramener l'information du déploiement des entreprises françaises à l'étranger, de la situation par rapport aux sources de produits bruts, et qui a continuellement évolué pour être aujourd'hui un réseau, si je ne m'abuse, à peu près 2500 dans le monde, il faudra qu'on vérifie ce chiffre, plus de 200 aux États-Unis pour sûr, et encore une fois, ici répartis de manière un peu géographique, mais dont la fonction de base est d'assister ou d'aider les services économiques français à l'étranger. Donc en l'occurrence pour nous, ce sont les services économiques de Washington et l'antenne d'export qu'est Business France, ou également la COFAS, et de manière plus récente, la BPI. Et là, pour répondre à ta question, il y a eu une nette amélioration. Et là c'est un cocorico bravo, on va dire, depuis 5 à 6 ans, avec l'assimilation plus judicieuse de la BPI, de la COFAS et de Business France dans la démarche de nos entrepreneurs français vers l'étranger. C'était pas autant le cas auparavant, ou tout au moins pas autant le cas pour les PME-PMI. Et ça a été un grand changement, parce que moi, en 20 ans, j'ai vu une très claire différence des projets et de la qualité des projets. Il n'y a pas à tortiller. Quand on doit s'asseoir en face d'un banquier et qu'on lui explique sa stratégie, il va bien falloir faire une colonne avec l'argent qui rentre et une colonne avec l'argent qui sort. Et malheureusement, dans le passé, et comme on le sait tous, chef d'entreprise, c'est pas un métier qu'on apprend à l'école, c'est pour beaucoup un métier qui s'apprend sur le tas. C'était pas aussi clair pour tout le monde qu'il faut considérer le développement aux États-Unis comme une vraie stratégie, avec des budgets, avec une vraie volonté. On vient pas aux États-Unis avec 50 000 dollars et avec l'idée d'embaucher un VIE. Quand j'entends ça, j'ai tendance à dire aux gens, OK, j'ai une bonne idée pour vous, prenez vos 50 000, allez à Las Vegas, et là, vous avez seulement un choix, rouge ou noir, ou autre, pair ou impair. Et je vais vous faire économiser de l'argent, parce qu'éventuellement, vous allez gagner tout de suite ou perdre tout de suite, mais au moins, vous savez ce que vous allez perdre. On vient pas aux États-Unis quand on est sous-budgété, et sans considérer que c'est quand même un très grand pays, 300 millions de consommateurs, 4 fuseaux horaires, il faut vraiment avoir une vraie volonté stratégique pour y venir.
D'accord. Oui, non, ça rejoint beaucoup des propos de mes précédents invités. Tu as mentionné que les CCE travaillaient avec Business France, la BPI, et tu as mentionné la COFAS. Je ne suis pas très familier avec la COFAS, mais il me semble que c'est associé à une notion d'assurance export par rapport à notre conversation de tout à l'heure. Donc, est-ce que la COFAS a un rôle à jouer justement pour notre exemple de l'exportateur en France qui vend du jouet?
Alors, pas dans les cas de figure que tu as présenté, c'est-à-dire un entrepreneur français qui vendrait depuis la France. La COFAS, c'est vraiment un entrepreneur français qui vient créer une société aux États-Unis. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un crédit export lié avec la COFAS sur ces risques. Donc, il faut avoir une démarche de création d'entreprise à l'étranger.
D'accord. Super. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais rêvé que je te pose?
C'est une bonne question en elle-même. Oui et non. Tu pourrais me poser la question, qu'est-ce qui est, à mon sens, vraiment la plus grande différence que j'ai pu voir dans le développement des entrepreneurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, mon intérêt et mon approche, c'est vraiment de comprendre cet entrepreneur pourquoi il a créé cette société, qu'est-ce qui fait qu'il apporte de la valeur ajoutée par ses produits ou par ses services. Bien évidemment, quand la société est plus grosse, j'ai la même interrogation auprès de ce qu'on appelle ici la C-suite, donc le CEO, le COO, le CFO, le CHRO, qui sont mes interlocuteurs de tous les jours. Pourquoi ils sont là, quel a été leur parcours et qu'est-ce qu'ils font, qu'ils pensent qu'ils vont créer de la valeur en gérant cette entreprise qui leur est confiée. Et la plus grande approche pour moi, la plus grande différence, et la question que tu aurais pu me poser, c'est ça, quelle est la plus grande différence d'approche? Pour moi, c'est vraiment le pragmatisme. Les Américains sont pragmatiques. À l'inverse, mes concitoyens français sont très créatifs parfois et très bout de ficelle. On va y arriver en se débrouillant. C'est pas l'approche américaine et parfois ça crée une incompréhension. Donc vraiment, la plus grande différence pour moi, c'est que le Français a tendance à vouloir et à pouvoir, parce qu'on a des très bons ingénieurs, faire évoluer son produit continuellement. L'Américain, lui, il veut un produit qui s'appelle A, qui va être livré le jour B, à un coût C. Et c'est ça d'abord que vous devez réussir. Délivrer sur votre promesse de manière très pragmatique, avec vos vraies compétences et de l'humilité. Ensuite, si vous êtes capable de lui montrer que vraiment, vous lui avez vendu le produit A parce que c'était celui qu'il voulait, mais il y a un produit A prime que vous savez faire qui lui donnerait une évolution, ça va être une deuxième phase. Et souvent, c'est un petit peu confondu par les interlocuteurs français qui viennent aux États-Unis, où tout de suite, on entend l'Américain qui vous dit « je veux A », et vous pensez déjà « bah oui, mais il serait mieux avec A prime ». Donc, n'oublions jamais qu'on a deux oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'il faut qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Quand un Américain vous dit « je veux A livré le jour B au coût C », c'est vraiment ça que vous devez lui livrer.
Oui, et je crois que tu fais aussi référence à cette notion qu'il faut simplifier aussi pour les États-Unis et qu'il faut peut-être pas forcément venir avec une offre extrêmement compliquée, avec beaucoup, beaucoup d'options, mais peut-être quelque chose qui est beaucoup plus simple et, comme tu le disais, répond à un besoin, quitte à ce qu'une fois qu'on est dans le pied dans la porte, étendre son share of wallet en apportant le produit à prime ou l'option à prime, comme tu le décrivais.
C'est ça. La deuxième question, c'est l'aspect contractuel. Ça, c'est la plus belle faute de compréhension. Et encore une fois, tu l'as évoqué avec nos amis avocats dans d'autres podcasts, mais il n'y a pas de code de commerce aux États-Unis. Il y en a apparemment un, mais en 20 ans, je l'ai jamais vu. Ce qui veut dire que l'aspect contractuel est un petit peu déstabilisant pour nos amis français. En France, si je fais un schéma un petit peu, 81% des échanges sont sur la base d'un bon de commande. Et on tourne le bon de commande et derrière, il y a 20 lignes, 30 lignes qui, pour la plupart, font référence au code du commerce français. Et si on n'est pas d'accord, on va se battre au tribunal de commerce. Et ici, ce qui est déstabilisant pour nos amis français, c'est qu'en fait, toute relation bilatérale, un vendeur et son client, un fournisseur et son client, sont gérés par des aspects contractuels beaucoup plus détaillés qu'en France. Donc, c'est vrai qu'il est important d'avoir un avocat dans sa poche, non pas quand on a le problème, mais avant qu'on l'ait. Là, encore une fois, c'est ma casquette gestionnaire des risques. Donc, ne traduisons pas, ça c'est l'erreur ultime, ne traduisons pas un contrat français littéralement en anglais. Allez voir un avocat américain, un avocat franco-américain qui va comprendre votre intention et qui va le traduire réellement dans les termes nécessaires américains. Je crois que c'est Luc Atlan qui parlait du Far West. Ça crée un Far West qui est un peu déstabilisant pour nos amis français. Mais c'est vraiment important à comprendre et à assimiler. Des contrats, ça se négocie. Ne signez jamais un contrat au premier jet. 5, 6, 7 drafts différents exemples différents avant enfin de signer. On doit toujours avoir son contrat prêt. Et on sait bien qu'après, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Vous allez mettre votre contrat sur la table et votre client qui est 100 fois plus gros va mettre le sien, prendre le vôtre et le mettre à la poubelle. Mais au moins, vous allez aller le chercher en petits morceaux dans la poubelle pour essayer que certaines de vos clauses soient intégrées dans le contrat de votre client qui est plus gros. Donc ça, c'est des démarches qui sont pas complètement intégrées au niveau français, qui sont vraiment nécessaires au niveau américain.
Absolument. Je recommande pour ça l'épisode 6 et l'épisode 7 avec Luc Atlan. Et je confirme, un jour, après avoir monté ma société, j'ai eu rapidement un contrat avec une société qui était une multinationale et donc beaucoup, beaucoup plus grosse que mon petit business. J'ai eu le réflexe de prendre un avocat, un petit peu terrifié en disant « il faut que je négocie ce contrat ». Et évidemment, j'ai tout mis sur le dos de mon avocat quand il y avait des commentaires. Et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie et les dollars les mieux dépensés de probablement toute ma vie. Donc prenez un avocat aux États-Unis, c'est fondamental. Super. Écoute, Laurent, je suis un chef d'entreprise pragmatique, je fais partie de la Suite. Et après t'avoir écouté, j'ai envie de prendre contact avec toi pour parler assurance aux USA. Comment te contacter? Quelle est la meilleure façon de te joindre?
La meilleure façon, c'est à travers un email. Mon email, c'est mon prénom, Laurent, point, mon nom de famille, Chevreau, comme la petite bête, C-H-E-V-R-E-A-U, @alliant, A-L-L-I-A-N-T. Donc presque comme Alliance, les assureurs, mais un T à la place du Z à la fin, .com. Et n'hésitez pas, encore une fois, considérer que j'ai deux casquettes, celle d'un conseiller du commerce externe de la France qui prendra toujours du temps pour vous expliquer ou vous guider sur votre démarche aux États-Unis, et celle bien sûr d'un gestionnaire de risque et un courtier d'assurance qui fera au mieux pour gérer de manière cost-effective, comme on dit ici, votre programme d'assurance en collaboration avec vos assureurs en France.
Parfait. Merci infiniment, Laurent.
Merci à toi, Romain.
Merci d'avoir suivi Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.hbia.co. Ça s'écrit ichbiah.co.